Espace 2.
Ils sont capables d'émotions, mais pas de sentiments durables, autres que la peur, la rage, l'envie de détruire ou encore l'envie de vengeance. Ils, ce sont les personnes souffrant de perversion narcissique, un phénomène étudié depuis 30 ans environ, notamment par le psychiatre-psychanalyste Maurice Hurny. Face à lui, cet après-midi, Lita Basset, théologienne et écrivain. Michel Cocher au micro, Jean-Claude Gailly à la réalisation. Vous souhaite à tous et à toutes bienvenue dans cette édition du magazine À Vue d'Esprit.
À Vue d'Esprit.
Cher, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, amour humain, amour divin, une autre de ces questions que soulève ce monde de la perversion narcissique, monde qui est dépourvu de cette dialectique amour divin, amour humain.
Et ce qui peut être tout à fait étrange pour nous, mystérieux, c'est que, vous verrez, Maurice Hurny, il parle non seulement de pauvreté en affect, mais parle même de haine de l'amour. Troisième volet, en votre compagnie, Lita Basset, en votre compagnie, Maurice Hurny, c'est celui de l'amour, puisque nous sommes dans ce domaine très froid et que vous avez étudié, Maurice Hurny, de la perversion narcissique. Lita Basset, pour vous être penchée beaucoup sur guérir du malheur, la culpabilité, le mal subi, le mal, la guérison, le pardon, toutes ces questions-là, en tant que théologienne. Maurice Hurny, on ne peut pas parler de sentiments en ce qui concerne les pervers narcissiques. Ils sont capables vraisemblablement d'émotions, mais peut-être moins de sentiments. Ils sont pauvres en affect, dites-vous. Les incroyables variations et évolutions qu'un névrosé peut ressentir entre l'amour et la haine les dépassent complètement. L'amour filial n'est pas de la même tessiture pour un névrosé. On n'éprouve pas le même amour pour son fils que pour sa mère, que pour un ami ou son mari ou d'autres personnes importantes. Ce sont des variations et des tessitures et des évolutions différentes chez un névrosé. Allez voir, donc, comme je le disais, ils sont capables d'émotions, mais pas de pérennité ou de sentiments. Ils sont doués pour vous sentir, d'avoir ce canal, ils ont un instinct très sûr, mais sont dépourvus de compassion, donc de se mettre à la place de l'autre. Ça serait même intolérable, puisque c'est un mal qu'ils ont subi et qu'ils font subir aux autres. Donc, ils sont incapables de se mettre à la place de l'autre. La souffrance de l'autre, s'ils n'en tirent pas du plaisir, les dérange, les énerve. Vous allez même plus loin, vous parlez véritablement de haine de l'amour. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça paraît tellement haïr l'amour. C'est, oui. C'est au-delà de la peur, c'est même une démarche inverse.
Voilà. Et c'est important la distinction que vous relevez là, dans la mesure où la peur est, comment dire, fait référence à une souffrance. Et dans ce sens-là, c'est une ouverture. Une ouverture sur une aide éventuelle, et une compréhension et une guérison. Alors que la haine, elle, est sur un autre versant, où il y a plutôt une fermeture à l'amour, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Madame Basset, et il n'y a pas de demande à ce moment-là. Il y a plutôt une comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un état d'esprit hostile, qui peut aller jusqu'à des comportements hostiles ou même à des idéologies hostiles à l'amour. Donc il va y avoir une sorte de construction qui peut se faire, qui va s'opposer par tous les moyens à l'amour. J'aimerais, avant de développer là, revenir aux affects qui sont propres aux pervers narcissiques et qui sont des affects narcissiques, justement. C'est-à-dire, nous avons la rage, la peur, et puis quelque chose de très mystérieux qui serait le triomphe. C'est-à-dire une sorte d'exultation. L'allemand dit Schadenfreude, hein, c'est-à-dire la joie d'avoir, par exemple, réussi à faire tomber quelqu'un.
À écraser l'autre.
Alors, ça peut être le sadisme, bien sûr, ça, on le connaît, mais c'est aussi la joie perverse d'avoir détruit quelque chose. Mm-hmm. Je pense à certains politiciens, directeurs d'entreprise ou autres, qui finalement aboutissent à une sorte de cataclysme, à une sorte de débâcle, un gâchis. Voilà une joie vraiment maligne qu'on peut en tout cas suspecter, disons, parce que c'est un peu bizarre, mais enfin voilà, on peut l'imaginer comme affect.
Et j'allais dire, dans les sentiments qu'on retrouve chez les pervers narcissiques, d'après ce que j'ai pu lire, il y a aussi une envie, une espèce de jalousie par rapport aux autres qui ne vivent pas cette même angoisse et même ce besoin incoercible de venger en détruisant l'autre, puisque moi j'ai subi ça, l'ancienne victime qui se venge pour rétablir sa justice d'une certaine manière. Ça, c'est un autre sentiment durable.
La jalousie, c'est un sentiment très évolué, n'est-ce pas ? On est là dans un système déjà oedipien et donc en général pas trop pervers.
C'est ça.
Par contre, l'envie, là, on est dans une zone beaucoup plus archaïque. Et en effet, je crois qu'elle joue un rôle prédominant, donc dans le sens kleinien, c'est-à-dire une envie destructrice. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu aies quelque chose que je ne peux pas, moi, avoir.
Ou que tu sois quelque chose que je ne suis pas.
Voilà, exactement. Ceci dit, je me demande si c'est... Des fois, il ne faudrait pas imaginer, mais c'est vraiment un effort pénible... de se dire que ça serait encore finalement, comment dire, humain, tolérable, acceptable d'être envieux. Il y aurait là l'ébauche d'un désir, par exemple, même tourné négativement de façon destructrice, il y aurait quand même l'idée de s'approprier de quelque chose qui peut-être témoignerait d'une sorte d'élan vers l'autre. Alors que dans la perversion, l'autre a un statut vraiment, ce qu'on appelle désobjectalisé, c'est-à-dire déshumanisé. Il est réduit à l'état d'objet ou d'ustensile, dira Camier, donc aussi désymbolisé, bien sûr. Donc on est là dans des zones vraiment frigorifiées, si j'ose dire, très inhospitalières, et on a de la peine à, comment dire, à saisir,
même le concevoir.
À concevoir. Qu'est-ce que veut vraiment le pervers ?
Pour bien comprendre, parce que là on utilise un tas de mots, le désir en soi est une pulsion de vie magnifique. Je veux dire, les enfants ne grandissent pas sans le désir de grandir, de devenir adulte, d'apprendre des choses, de développer son intellect et son affect. Le désir en soi est une pulsion de vie magnifique. L'envie, par contre, est différente chez les pervers narcissiques.
Voilà. Encore une fois, l'envie, elle existe chez tout le monde. Mais peut-être beaucoup plus forte chez le pervers narcissique. Le désir, c'est l'amour, pour dire les choses un peu plus scientifiquement. Et le pervers l'a en horreur, et non seulement chez lui, mais chez l'autre. Donc il va s'efforcer de...
Détruire le désir.
De détruire le désir, par exemple, le désir qui pourrait naître chez un enfant... De le capter, de le travestir, de le sexualiser ou de le retourner en disant voilà, tu vois comme tu es. Enfin, il va y avoir là une sorte de destruction dans l'œuf pour que le pervers puisse exploiter ensuite cet enfant ou cette situation. Disons, il y a tout le problème du lien qui se pose. Le lien, puisque le thème c'est l'amour, ça serait là, on serait dans une gamme névrotique, c'est-à-dire avec un élan, avec une aspiration à l'union, à la rencontre.
Au rapprochement.
Au rapprochement, que ça soit sous une forme...
voire à la sublimation de l'autre.
Toutes les formes, bien sûr, que ça soit amical, affectueux, tendre, sexuel,
fraternel,
ou sublimé, etc. Enfin, il y a des gammes, heureusement, splendides sur ce registre. Mais alors, je crois que dans le registre pervers, on a beaucoup plus à faire à la destruction des liens. Et au fond, il y a là quelque chose de terrible, c'est que c'est beaucoup plus facile de détruire, par exemple, la confiance que de l'accepter, enfin, de la construire, n'est-ce pas ?
Ça, ça va plus vite.
Et alors, on voit dans les familles, par exemple, certains parents passablement pervers qui, par exemple, jouent sur la rivalité entre les enfants, se posent en ce qu'on appelle en parents rares, c'est-à-dire vous devez faire en sorte que je vous aime. Je vous ai pas, c'est pas
gratuit. Soyez à la hauteur de ce que j'attends sans vous dire quoi exactement.
Ah, en plus, voilà, exactement. Ça ne vient jamais en réalité. L'enfant ne trouve jamais la clé de cet amour tout à fait improbable. Mais il reste suspendu comme ça à cette demande, à cette quête jamais satisfaite. Et donc, d'autant plus s'il y a une rivalité qui est instaurée avec... gratification d'un côté, punition de l'autre, etc. Et je le dis parce que nous sommes dans une société qui est de ce type-là. On dit tout le temps, ah voilà, les ressources sont rares, il faut vous battre si vous voulez avoir un peu d'argent. C'est la lutte pour la survie, ou Dieu sait quelle absurdité. Et c'est pas fini, je veux dire, par exemple, l'idée de la compétition, c'est une idée qui revient constamment entre universités, entre hôpitaux, entre médecins. Il y a là une sorte d'idéologie actuelle, comme quoi, si on met les gens en rivalité, eh bien, ils vont s'entre... je sais pas quoi faire, mais en tout cas, il y aura là quelqu'un pour tirer les marrons du feu. C'est absurde, évidemment.
Ceci dit, se confronter à l'autre autre, dans sa différence, c'est un enrichissement. Je veux dire, même entre névrosés très différents, avec les alchimies propres à chacun, en soi, c'est quelque chose qui peut ériger quelque chose de nouveau. Si on parle de toutes ces horreurs là aujourd'hui, finalement, l'autre question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que c'est l'amour alors, Maurice Surny, si vous avez étudié tellement la haine de l'amour, le non-amour, le non-être hein, chez les pervers narcissiques, évidemment, l'autre question se pose toujours. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est le lien. L'amour, c'est être. L'amour, c'est quoi?
Vous m'embarrassez beaucoup plus que... Oui, il y a bien sûr alors cet aspect de générosité qu'on attend de l'amour, c'est-à-dire d'altruisme. C'est que l'autre soit bien, en effet, ait du plaisir. Disons, c'est très compliqué, parce que enfin, là, je pense que Mme Basset serait plus à l'aise que moi. Le fait de donner dans un couple qui s'aime est tout aussi plaisant que de recevoir. Je veux dire, il y a là une sorte de magie qui fait que...
il y a une circulation.
Voilà, voilà.
Une dynamique dans le lien.
Il y a des échanges et qui font autant plaisir à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Ça pourrait être une façon, en tout cas, de voir l'amour. Mais pour être franc, la situation se pose assez rarement à un thérapeute de couple.
On ne vient pas vous voir quand tout va bien. Hein.
Voilà.
Oui. Mais alors, qu'est-ce qui lie les couples de pervers narcissiques? Si je reprends le tableau de votre livre, on peut donc en déduire que c'est des manipulations l'un l'autre, qu'il y a un bourreau, l'autre est victime et les rôles peuvent changer. Il y a quoi? C'est des couples mégalomaniaques, donc il y a une auto... c'est-à-dire un culte du self sublime, je ne sais pas, quelque chose comme ça, de la complicité.
Oui, alors...
de la dépendance.
Tout ça. Et encore bien d'autres choses peu intéressantes en elles-mêmes. Nous avons trouvé une sorte de dénomination que nous avons appelé la tension intersubjective perverse. Ce concept était au fond pour nous ce qui nous semblait remplacer justement l'amour dans des couples, disons grosso modo pervers, pour dire à organisation perverse ou à dynamique perverse, que je préfère.
Et tant que cette tension est assez forte et stimulante, on estime que ça roule.
Alors cette tension, c'est une sorte d'emprise mutuelle, c'est une sorte de guerre, un peu je te tiens par la barbichette, vous savez, il y a là une sorte de soit d'hostilité, soit d'attente, soit de stratégie.
Il n'y a pas de confiance entre eux.
Alors non, aucune confiance.
Mais aucun des deux ne subsiste, il n'y a pas l'autre.
Totalement.
J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit on ne pourra jamais se séparer parce qu'on est autant malade l'un que l'autre, mais chacun a besoin de l'autre.
Voilà.
Sinon on meurt.
Et c'est d'ailleurs, comment dire, assez catastrophique, disons, parce que tout le monde, lorsque ces couples sont, et ils sont en général assez bruyants, je veux dire, il y a beaucoup de drames.
Tout à fait.
Donc, il y a des gens qui sont appelés à intervenir de tous bords, en général. Et la première idée, c'est, mais si vous ne vous entendez pas, enfin, pourquoi vous ne vous séparez pas? Enfin, surtout
impossible.
Aujourd'hui, hein, ça serait assez banal. Et voilà, alors en réalité, il y a là une sorte de dépendance très... ils sont soudés, ces couples.
C'est un lien, mais mortifère.
C'est un lien mortifère, exactement. Racamier parlait de ligature, par exemple.
Hein.
C'est un terme aussi qui rend cet enchaînement mutuel.
Ils sont solides, ces couples-là, Étienne.
Oui, certaines fois, on peut aller... Enfin, certains couples vous disent... Enfin, ou certains... époux vous disent je préfère être détesté qu'ignoré par exemple. Donc on trouve là des sortes de situations dramatiques où les gens parlent là de leur détresse essentielle en réalité, n'est-ce pas?
Ils ont également épouvantablement peur l'un de l'autre aussi.
Ah, la peur joue un rôle essentiel à la fois à l'intérieur des personnes, ce sont des gens qui ont été très envahis de toutes sortes de stimulations, de violences, etc. Et puis, entre eux, je pense par exemple à la peur, un exemple parmi des millions, mais beaucoup d'enfants parlent de la peur de la mort, d'être tués par leurs parents. Soit volontairement, on est absolument étonné quand on commence à ouvrir les yeux sur la violence, à quel point des pathologies diverses peuvent être, en cours de thérapie, aboutir, disons, à des violences très concrètes, de tentatives de meurtre sur l'enfant ou sur des proches impliquant l'enfant, etc. Bref, il y a là, la peur joue un grand rôle. Ou bien le chantage à la mort, par exemple. Beaucoup d'enfants disaient, mais quand je rentre de l'école, je n'étais même pas sûr de savoir si ma mère serait encore en vie, parce qu'elle me disait, adieu, tu ne sais pas si je serai encore là quand j'entrerai.
Donc, la peur de l'abandon aussi.
Oui, j'ai connu une personne dont la mère, quand elle était toute petite, disait régulièrement, venait s'asseoir sur son lit, elle lui disait, je vais m'en aller, je vais t'abandonner, je vais te laisser. Et la petite éclatait en larmes, pleurait toutes les larmes de son corps. Et ensuite, la mère disait, mais non,
c'est pour
pas
rien.
Du tout. C'était, c'était un jeu qu'elle faisait, quoi.
Voilà, donc la peur subie et la peur infligée. Hein, on peut dire,
ouais,
voilà, un élément qui va être très, très important dans la constitution de ce lien anti-amoureux, si on veut bien.
Lita Basset, on va parler d'amour divin. En quoi la gratuité de l'amour de Dieu est-elle une révolution dans ce sens-là? Parce qu'on parlait d'un regard de Dieu aussi. On parle de révélation lorsqu'on évoque l'amour inconditionnel de Dieu. Est-ce qu'on peut se laisser toucher par l'amour de Dieu quand on a la haine de l'amour?
Bon, de toute façon, d'une façon générale, je trouve que même sans être pervers narcissique, on est quand même très très nombreux à avoir beaucoup de peine à se laisser toucher par l'amour divin, franchement, et par l'amour tout court. Il y a quand même énormément de personnes qui ont peur de la proximité, peur de l'intimité, peur de subir une intrusion et qui se laissent difficilement rejoindre justement par l'amour qu'on leur porte. Donc je dirais que c'est un peu le même problème par rapport à Dieu, on va dire.
Mais si on évoque un lien à Dieu, un lien, c'est dans, il y a deux sens. Hein. Il y a l'espérance, j'allais dire, la dynamique dans l'espérance qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Et puis, il y a de l'autre côté quelque chose qui existe, un lien qui semble indéfectible.
De la part de Dieu.
De la part de Dieu.
Oui, mais ça peut rester très cérébral. Ça peut rester quelque chose qu'on a appris, qu'on sait comme ça théoriquement, mais qui ne rejoint pas les entrailles profondes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent qu'il y a quelque chose qui est mort au milieu d'eux, au plus profond d'eux, et, ou qui est fermé, disons, ou qui n'arrive pas à vraiment accueillir ça. Alors... voilà, c'est ça que je dirais. C'est que j'étais toujours très sensible à la parole de Jésus juste avant qu'il soit arrêté. Il a beaucoup insisté sur le fait de demeurer dans cet amour, comme un peu dans un milieu aquatique, de demeurer ensemble, dans le sens que c'est pas juste quelque chose qui se passe entre deux personnes. On a beaucoup parlé du lien là, mais il y a le lien et il y a quelque chose de plus vaste que le lien, qui est de l'ordre de l'amour avec un grand A, on va dire. Moi, j'entends ça quand il dit demeurer dans mon amour, demeurer dans quelque chose de plus vaste que vous. Il y a le lien qui est peut-être très difficile à établir, qui est même voire impossible à établir, parce qu'il y a cette destruction du lien dont on vient de parler longuement. Et en même temps, il y a quelque chose de plus grand que ça.
Et qui n'est pas invasif, mais qui est là.
Qui est là, qui est comme un milieu aquatique, bienfaisant. Il y a, dans une épître, il est dit que si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. J'aime beaucoup cette phrase. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Et même si la personne que j'ai en face de moi semble totalement fermée, hermétique à quoi que ce soit de cet ordre-là, il y a quelque chose de plus grand qu'elle et que nous deux. Pas quelque chose, il y a quelqu'un de plus grand. Même si on va pas tous l'appeler Dieu, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, de l'ordre d'un mystère de vie qui est plus vaste que ce lien impossible, que ce lien détruit, que ce lien hypothétique. Il y a quelque chose de plus vaste. Alors, ça serait ça que je répondrais.
Je suis tout à fait impressionné là quand vous parlez là de ces vues si synthétiques et si grandioses. J'aimerais amener ma pierre à cet édifice là dans le souvenir que j'ai d'une thérapie d'un patient qui n'était pas pervers narcissique, mais qui avait vécu dans une famille vraiment épouvantable, avec des violences épouvantables, qui l'avait amené vraiment à une sorte de fermeture quasi autistique. Et il avait abouti, en tant qu'adulte, à dire « moi, je ne ressens vraiment aucun lien avec personne. Oui. Tout le monde pourrait mourir autour de moi, ça me serait complètement égal.
Oui. »
Mon Dieu, quand il m'a dit ça, j'ai dû m'accrocher et je me suis dit « ah là là, du travail. » Mais en réalité, non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il était venu chez moi parce que il était très apprécié dans son travail. En étant comme ça inhumain, si j'ose dire, entre guillemets, et c'était exactement le profil qu'on recherchait.
Efficace.
Comment dire, rien ne le touchait, n'est-ce pas? Donc, c'est actuellement une sorte de standard ou d'idéal vraiment terrifiant, mais qui semble être actuel. Toujours est-il que, quelque part, il ne devait pas être si épanoui, évidemment, même dans ce travail. Et il a fait un malaise. On a appelé l'ambulance. Et ce patient qui était si étranger, dans le sens de Camus, si distant, etc. Il y a eu une infirmière dans cette ambulance qui s'est penchée sur lui et qui lui a dit « ça va ». Et il a fondu en larmes.
Voilà.
Il y a eu quelque chose qui tout d'un coup s'est dénoué à ce moment-là. Ça faisait 30 ans qu'il était là dans une situation d'asphyxie libidinale, je dirais moi, avec mes termes, mais enfin bref, relationnelle et chaleureuse. Et ce simple mot, cette attitude maternelle ou chaleureuse, comme ça, a tout d'un coup ouvert là une espèce de brèche avec des pleurs qui n'ont plus arrêté et qui, de fil en aiguille, l'ont amené en consultation.
Mais je suis très touchée par cet exemple parce que dans la description du début, je me reconnaissais moi-même. Et c'est pour ça que j'ai tellement de compassion pour des personnes qui sont dans cette fermeture parce que je l'ai tellement vécu moi-même, une espèce d'anesthésie mais très 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 profonde qui pour moi est complètement liée au traumatisme de la vie et des choses épouvantables qu'on a pu vivre, mais en même temps là, ça illustre aussi ce que je venais de dire, qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est que je m'excuse de me mettre un peu en avant sur ce point précis, mais par ailleurs, il passait toujours à travers moi beaucoup de chaleur humaine et d'affection, d'amitié, et à tel point que si les gens l'avaient su, ils auraient dit « mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça ». Et en même temps, les deux choses étaient vraies. Mais mon vécu personnel était vraiment de cet ordre-là, de l'impossibilité totale du lien, quelque chose de complètement à la limite. limites de l'autisme. Et, mais pareil, alors c'est pour ça que souvent, les personnes qui ont cette problématique-là, c'est très important de leur refléter, mais ça n'est pas que ce que vous ressentez. Il y a un mystère plus grand que juste ce qu'on voit de vous et ce que vous voyez de vous. Il y a quelque chose...
Il y a une ouverture, des possibles.
Oui, puisqu'il passe à travers vous des choses dont vous êtes ahuri quand on vous le dit. Donc, il y a quelque chose de plus grand que nous, dans lequel nous baignons. Enfin bon, je le dis comme ça, mais...
Quelque chose dans lequel on peut avoir confiance et qui...
Qui est là, qui existe. Ouais.
Je vais quand même vous la poser, c'est un peu de la provoque, hein, je dois dire, poser cette question à Lita Basset. Lita Basset, vous croyez au miracle ?
Oh mais complètement, je ne fais pas qu'y croire, je les vois. Mais moi, vous savez, des miracles, j'en vois tous les jours. Alors c'est là pour ça, il y a quelque chose de très enfantin chez moi.
Parce non, mais il y en a des grands. Dans ce domaine de la perversion narcissique, il y a un domaine tellement incroyablement froid et détruit. On se dit, enfin je ne sais pas, Maurice Surny, vous avez dû vous le dire une ou deux fois en face de certains patients, vous dire là, il faut un miracle ou...
Oui, mais c'est ça. C'est ça, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'au dernier souffle de la personne, on ne sait pas, c'est pas forcément un miracle où tout à coup, Dieu du ciel, Dieu déchire son ciel et vient faire quelque chose, c'est pas ça, ça peut très bien se faire, parce qu'on ne sait pas quelles sont les ressources des gens, au fin fond du fin fond. On ne sait pas ce dont un être humain est porteur. Mais je m'excuse, je vous ai un peu ravi le micro.
Non, pas du tout. Le miracle, là, c'est pas mon domaine.
Mais non, mais il y a des petites choses qui, tout dépend le regard que vous émettez dessus, mais une petite chose. Par exemple, l'homme dont vous parliez dans l'ambulance, c'est de cet ordre-là.
Ah oui, tout à fait.
Moi, j'appelle ça un miracle.
Il y en a eu plusieurs dans sa vie.
Surny et Lita Basset étaient vos invités, Anne Bécher. Alors nous les retrouvons demain, jeudi, pour une nouvelle édition d'Un Vue d'Esprit. Avec quel thème de discussion ?
Demain, on va parler des valeurs, du respect. On va parler de culpabilité aussi. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le monde de la perversion narcissique. On va revenir à tout ça, à la morale aussi. Pas au moralisme, à la morale.
Merci Anne Bécher. On vous retrouve donc demain à 16h30. Plus d'infos sur notre site www.rsr.ch/esprit. Et c'est maintenant d'un air entendu que le programme d'Espace 2 continue son chemin.
Dénicheur de talent, le prix des jeunes auteurs encourage la création littéraire auprès des jeunes de 15 à 20 ans. Le sujet de l'édition 2006 du prix des jeunes auteurs porte sur le théâtre et la lettre. Le délai d'envoi des textes est fixé au 30 juin. Informations au 021 654 21 00, 021 654 21 00 ou sur www.lhebe.ch. Les textes primés seront diffusés dans Méridienne du lundi au jeudi à 11h30.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.